Bonjour à tous, merci à Philippe pour nous avoir introduit avec Isaïe 40. C'est un texte magnifique, vraiment, qui nous rappelle la gloire de Dieu et son soutien constant pour nous. Prions. Seigneur, je voudrais te rendre grâce et te remercier pour ton amour pour nous. Oui, tu es immensément grand et nous sommes immensément petits face à toi. Et pourtant, tu nous aimes. Pourtant, tu prends soin de nous. Pourtant, tu t'inquiètes pour nous. Et tu t'inquiètes, bien sûr, dans le sens où tu prends soin de nous, Seigneur. Et je veux te louer pour cela. Je te prie, Seigneur, ce matin pour cette prédication, ce texte biblique que nous allons ouvrir, qui est un peu difficile. Mais toutes paroles sont là, tout récit, Seigneur, dans la Bible sont là pour nous enseigner, pour nous reprendre, Seigneur, pour nous instruire, pour nous montrer ta gloire, Seigneur, pour nous instruire en toute bonne œuvre, Seigneur, pour que nous puissions être édifiés. Et même si c'est un peu difficile parfois, je te prie que tu puisses nous donner cette compréhension. Et me donner aussi les bons mots, Seigneur, en tout cas la simplicité qu'il faut pour traiter ce texte. Je te remets cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, en effet, oui, c'est un texte un peu difficile, mais comme tous les textes difficiles, c'est parce qu'ils sont difficiles qu'il ne faut pas y mettre son nez dedans. Et il suffit un petit peu de l'ouvrir parfois et on s'aperçoit qu'il y a des trésors extraordinaires. Et on va essayer de le lire ensemble pour les découvrir, ces trésors, parce qu'effectivement, il y a des trésors dans ce texte. Donc je lis avec la version Tob, mais c'est un texte de Actes au chapitre 5, c'est l'histoire de Ananias et de Saphira. Donc je crois que c'est au verset 1, si mes souvenirs sont bons. Je n'ai même pas noté la référence, mais... Un certain Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit en accord avec elle un terrain qui leur appartenait. Il garda avec l'accord de sa femme une partie de l'argent et alla remettre le reste aux apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il envahi ton cœur ? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent rapporté par ce terrain. Avant que tu le vendes, il était à toi. » Et après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas ? Comment donc as-tu pu décider un tel projet en ton cœur ? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Les jeunes gens vinrent l'envelopper le corps, puis l'emportèrent et l'enterrèrent. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, avez-vous vendu votre terrain pour telle somme ?» Elle répondit, « Oui, pour cette somme-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment donc avez-vous pu décider ensemble de défier l'Esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte et ils t'emporteront aussi. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Toute l'église et tous ceux qui apprirent ces faits furent saisis d'une grande crainte. Voilà, un texte un peu compliqué. Avant de commenter ce texte, j'aimerais que vous me pardonniez à l'avance de ce que je vais y défendre. Un petit pardon à l'avance. La juste mort d'Ananias et de Saphira. Personne en effet irait jusqu'à dire ouvertement parmi nous que le Seigneur a été excessif en cette affaire. Mais pourtant, défendre l'idée que la mort en pareil cas fut justifiée pourrait être difficile à entendre. Certains seraient peut-être enclins à penser qu'en la matière, il faut de la retenue, au risque de décrire un Dieu brutal et sans grâce, ce qui n'est assurément pas, je vous l'accorde, mais ça pourrait donner l'apparence. Cependant, que je souhaite vous ménager ici n'enlève rien au texte. Il présente Dieu ôtant la vie à ce couple sans qu'il n'ait eu l'occasion de se repentir. Et cela, il faut l'interroger. Quoique cela contrevienne à tout ce que la foi en nous dit sur le pardon de Dieu, sur sa compassion ou sa bonté. À tout le moins, il faut se demander pourquoi Dieu a ôté brutalement la vie à Ananias et Saphira, pourquoi n'ont-ils pas eu l'occasion de se repentir ? Pour quelles raisons leur mensonge était-il impardonnable aux yeux du Seigneur ? Car si nous préférons mettre ces questions de côté, l'ignorance entretenue sur cet épisode de la Bible profitera à l'ennemi. Or, notre Église est sainte. Oui, elle est sainte, mes amis. Notre Église est sainte, elle est belle, et elle mérite de savoir ce qui se cache derrière cet épisode fâcheux. Deux parties suffiront pour répondre à nos questions. Puisqu'il s'agit d'un péché qui n'a pas été pardonné, et que Jésus dit que le seul péché impardonnable est celui qui se fait contre le Saint-Esprit, alors nous allons essayer de comprendre à l'aide de trois exemples ce que cela signifie péché contre le Saint-Esprit. Ça sera notre première partie. Une fois qu'on aura compris ce point de doctrine, je vous expliquerai en quoi la faute d'Ananias et Saphira fut impardonnable. Est-ce que pour vous c'est bon le programme ? Vous avez bien compris ? Bon, ben c'est super, on va y aller. Jésus face aux pharisiens. Donc mon premier exemple pour expliquer le péché impardonnable est celui où Jésus est face aux pharisiens qui l'accusent de chasser les démons par la puissance de Belzébul, le chef des démons. Dans cet épisode, Jésus retourne leur argumentation contre eux et souligne l'incohérence de leur raisonnement en ces termes. Si Satan expulse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son pouvoir sur les hommes pourrait-il se maintenir ? Jusque-là, on comprend que c'est un non-sens. Mais ce qui m'intéresse dans cet épisode, ce n'est pas tant la critique en elle-même et comment Jésus l'a écartée, mais la raison de la critique. Et c'est en réalité ce que les évangélistes veulent qu'on retienne. Et je vous invite à écouter je crois que c'est Luc qui parle donc de comment Luc a expliqué les raisons de cette critique. Qui n'est pas avec moi et contre moi, dit Jésus, et qui ne rassemble pas avec moi disperse. Voilà pourquoi je vous le déclare. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais s'il parle contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Dans la mise en garde ici, ce qui n'est pas pardonné en réalité, ce n'est pas la critique sur la personne de Jésus, c'est pour ça qu'on l'écarte d'emblée, mais c'est bien le fait d'avoir critiqué l'Esprit de Dieu, alors qu'il était en œuvre, en mouvement. Alors que celui-ci faisait grâce de voir concrètement Dieu agir, faire un miracle en gros, on lui conteste l'origine de ce miracle. On lui dit « Non, mais ce n'est pas Dieu qui fait ça, c'est le démon. » C'est ça qui est pointé du doigt dans le texte. Je vois Dieu et au lieu de lui donner de gloire, je l'insulte. Ça, c'est un premier exemple qui nous montre précisément ce que Jésus entend par un péché contre le Saint-Esprit. Mais il y a un deuxième exemple, celui de Judas. Judas, on sait, il n'a pas été pardonné. On va essayer de comprendre pourquoi. Et c'est ce qui est reproché donc à Judas Iscariote. Et c'est mon deuxième exemple. Judas a, lui, aussi chassé les démons par le Saint-Esprit. Il a été l'un des douze. Il connaissait la vérité au sujet de Jésus. Mais parce qu'il a préféré ouvrir son cœur à Satan, et ça vous rappelle un peu ce que notre texte dit, quand Pierre interpelle Ananias, « Comment as-tu laissé entrer Satan dans ton cœur ?» C'est la même chose qui est dit, c'est la même phrase qui est dit pour Judas. Donc parce qu'il a préféré ouvrir son cœur à Satan pour des raisons d'argent, nous disent les évangiles, il a commis le péché qui conduit à la mort, pour reprendre l'expression à l'apôtre Jean. Il insulte la grâce que Dieu lui a faite en lui préférant de l'argent. Et attention, quand je dis cela, je ne juge pas sur sa trahison. Et tous les disciples ont trahi, y compris Pierre. Les circonstances étaient difficiles. Il y a eu trahison, et Judas a trahi comme les autres apôtres. Mais seulement la différence ici, c'est que au moment où il a trahi, ce n'était pas une trahison par peur. Il a voulu tirer parti de cette situation, de ne pas se laisser, ne pas finalement être laissé pour compte dans cette affaire. Il a tiré parti. Et c'est cela qui est en quelque sorte un péché impardonnable. Parce qu'en faisant cela, il a foulé aux pieds la grâce de Dieu dont il avait fait l'objet. Un autre exemple va nous éclairer sur le pardon contre le Saint-Esprit, le péché contre le Saint-Esprit et ce péché impardonnable. C'est celui de Simon le Mage. Et vous verrez, il y a toujours une histoire d'argent dans cette affaire. Donc il faut écouter quand même par rapport à ça. On trouve son histoire dans les Actes au chapitre 8. Pour lui, l'issue de sa faute est un peu différente. On ne pense pas qu'il soit mort, en tout cas, le texte ne nous le dit pas. Mais il y a aussi un mépris qui est dû à son incompréhension. Simon est un mage, il vit en Samarie, je rappelle un peu l'histoire, et il est réputé dans la localité samaritaine parce qu'il opère un certain nombre de sortilèges suffisamment remarquables pour être admirés. Il vit de ça. Et à l'époque, il n'y a rien d'étrange à cela. Il y a la profession de sorcier ou de marabout, ça existe. Et donc, du coup, il fait ce genre de choses, avec peut-être un peu plus. On voit encore ça aujourd'hui dans certains pays d'Afrique ou en Haïti. Voilà, des gens qui font des miracles, des prodiges, et qui attirent les foules. Or, Philippe, un évangéliste, vient prêcher en Samarie, et provoque une vague de conversion, si bien qu'une fois qu'il a terminé de baptiser ces nouveaux chrétiens, Philippe appelle Pierre et Jean pour qu'ils leur imposent les mains et qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Simon le Mage fait partie des nouveaux prétendants ou chrétiens qui en devenir, puisqu'il reçoit le baptême. Seulement voilà, voyant Pierre et Jean imposer les mains, il leur demande s'il lui aussi pourrait avoir ce pouvoir en leur proposant au passage de l'argent. Et voici la réponse de Pierre. « Que ton argent aille à sa perte avec toi, puisque tu as pensé que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. Tu n'as aucune part ni aucun droit en cette affaire, car ton cœur n'est pas honnête aux yeux de Dieu. Rejette donc ta mauvaise intention et supplie le Seigneur pour que, si c'est possible, il te pardonne d'avoir eu une telle pensée. Je vois en effet que tu es plein d'un mal amer et que tu es complice du péché. Simon dit alors à Pierre et Jean, « Suppliez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. » Donc on voit dans cet échange qu'il y a un mépris de Simon pour le Saint-Esprit. Non pas que ce mépris provienne du fait que Simon rejette ou méprise cette puissance, puisqu'il la veut pour lui, donc on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure que les pharisiens, mais en fait, il veut cette puissance pour en tirer profit. Et comme auparavant, quand il utilisait la sorcellerie pour être admiré de tous. Et ça, c'est une faute qualifiée d'impardonnable. Tout comme les pharisiens qui méprisèrent le Saint-Esprit en lui déniant la libération d'un sourd et muet, tout comme Judas qui méprisa Dieu pour de l'argent, Simon le méprisa encore pour sa propre renommée. Donc le lien en commun, c'est ça. Le mépris du Saint-Esprit, alors même que je l'ai vu agir, alors même que j'ai été témoin, et donc ça a été une grâce pour moi d'en être témoin déjà, que j'ai été témoin de son action, et je le méprise. Alors on peut imaginer que Dieu, dans cette histoire avec Ananias et Saphira, puisqu'il s'agit également d'un péché impardonnable, nous soyons dans ces termes-là. Il y a mépris du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, il le dit très clairement, Pierre. Venons à présent à notre texte. En quoi la faute d'Ananias et Saphira était suffisamment grave pour mériter la peine capitale ? Au fond, quand on y réfléchit, même s'il y a eu mépris de leur part quant au fait de mentir au Saint-Esprit, c'est tout de même dans le cadre d'un don qu'ils furent punis. Certes, ils ont menti sur la somme de départ, mais bon, ils ont donné de l'argent. Est-ce qu'on mérite de mourir pour ça ? Pour comprendre ce qui se joue ici, et je reconnais ce n'est pas forcément facile de le comprendre si on n'y épluche pas le texte, il faut revenir un peu en amont, au moment où l'Église primitive va se former à la suite de la prédication de Pierre. Tout d'abord, la prédication de Pierre fait suite à l'effusion de l'Esprit. C'est une conséquence directe de l'action de l'Esprit. Un petit peu comme ce miracle de ce sourd et muet qui est guéri. Il y a une action du Saint-Esprit et cette communauté se forme. C'est la première chose. Certains pensent que les gens sont ivres alors qu'ils sont remplis de l'Esprit-Saint et Pierre profite de l'occasion pour parler. Il commence son discours en citant le prophète Joël, annonçant cet événement de l'Esprit-Saint. Puis Pierre développe, il parle de Jésus, de sa mort, de sa victoire sur la mort, et puis il fait un appel à la conversion. Et là, une communauté se forme. Il prêche l'Évangile, en gros. Ce texte est important. Et on pourrait enfoncer encore plus, on pourrait vraiment aller plus loin encore dans le discours pour essayer de comprendre de quoi on parle, notamment avec les prophéties de l'Ancien Testament. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tant la prédication en elle-même que les fruits de celle-ci. Cette prédication, en formant cette nouvelle Église, cette nouvelle communauté, soulève une immense espérance. Une immense espérance. Laquelle se traduit par une communauté qui va donner tous ses biens en commun. C'est pas rien. Une immense espérance. Ils se forment autour d'une communauté et ils mettent tout dans un pot commun. Ça me fait penser un petit peu aux communistes, vous savez, quand ils ont commencé, entre guillemets, c'est un petit peu d'ailleurs une reprise, hein, ils ont commencé à avoir une idée, une idéologie qui leur a donné une grande espérance, et ils se sont dit, ça y est, on va renverser les bourgeois, et on va mettre une dictature du prolétariat. Bah, c'est un peu une immense espérance. Mais c'est un peu différent, parce que là, c'est l'Esprit Saint et c'est la vérité, ce n'était pas une idéologie mensongère. Donc, cette prédication soulève une immense espérance, et désormais, cette communauté est considérée comme le Christ ressuscité, comme ses membres, comme son corps. Christ est ressuscité, et on le voit à travers cette communauté qui se forme. Et après, elle va se former au fil des siècles, etc., elle va continuer. Mais c'est quelque chose de fort, là, à cet endroit-là. Pour le dire autrement, il y a dans cette prédication les ferments qui vont faire lever ce pain dans la forme que nous connaissons aujourd'hui, l'Église, c'est-à-dire sous la forme d'une communauté que nous perpétuons encore à travers la liturgie de la Sainte-Cène. Donc c'est quelque chose qui date hein, depuis 2000 ans. Et on est toujours dans ce corps de Christ. Pour confirmer cette réalité que le Christ ressuscité est au milieu de cette communauté, la vie de l'Église primitive est ponctuée régulièrement d'interventions divines spectaculaires. Les apôtres sont ici les lieutenants d'un commandant invisible. Ils ne tirent pas les manettes, ils n'établissent aucune stratégie, ils ne poussent pas les gens à s'investir, à aller, il faut aller annoncer l'Évangile, etc. Non, c'est directement le Christ qui, même invisible, se rend visible par ses actions et ses visions. Les apôtres ne font que suivre les pas du Christ. Ce n'est pas leur œuvre qu'ils font au nom de Christ, mais c'est Jésus qui fit son œuvre à travers eux. C'est les actions de l'Esprit-Saint. On dit les actes des apôtres, hein, mais c'est l'action de l'Esprit-Saint à travers les apôtres et que nous recevons aujourd'hui comme héritage. Donc, fort de ce contexte, entrons maintenant à présent dans la séquence Ananias et Saphira, ce qui nous intéresse, et répondons à nos questions. Pourquoi Dieu a ôté brutalement la vie à Ananias et Saphira? Pourquoi n'ont-ils pas eu l'occasion de se repentir de leur mépris? Lorsque ce couple arrive dans le récit, l'auteur est en train d'expliquer comment les choses se passent à l'intérieur de cette communauté. Comment ça se passe? La vie en commun des disciples, on en a parlé. Il veut montrer d'une certaine manière aux générations futures, puisqu'il s'adresse en fait, c'est 30 ans après les faits hein, qu'il parle Luc dans ce texte. Donc il parle à cette génération, la deuxième génération, bah, comment ça se passait à l'époque à l'intérieur. Et il veut montrer aussi à ses disciples cette vie fraternelle, où tout le monde mettait ses biens en commun. Cet idéal inspiré par l'Esprit-Saint. Et plus exactement, il veut aussi mettre un lien direct avec l'Ancien Testament. Les espérances d'Israël, dans laquelle la justice de Dieu règne, où les plus faibles ne sont ni spoliés ni oppressés par les plus forts, mais qui sont pris en charge, qui sont enveloppés, qui sont bénis. On en a parlé tout à l'heure avec Isaïe 40. Cette grande espérance, on est là-dedans. Nous sommes là-dedans. Et c'est les prophéties qui se confirment à travers cette nouvelle communauté. C'est important de bien saisir donc ce contexte. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on nous rappelle, dans l'épisode d'Ananias et Saphira, qu'elle fait suite à la démarche de Barnabas, un lévite pieux et intègre de Chypre, une figure qui va aussi accompagner l'apôtre Paul plus tard. Donc cet homme-là vient, il vend un champ et il le donne aux apôtres. Et Ananias et Saphira font de même, à sa suite, d'une certaine manière. Or, contrairement à Barnabas, Ananias feint d'être juste en apportant son argent, alors qu'en réalité, il est fourbe. On pourrait penser, en lisant trop rapidement ce texte, que ce qui motive Ananias et Saphira, et on l'a vu tout à l'heure avec l'argent, hein, c'est son avarice. Il est avare. Mais, et donc il ne donne pas à tout, mais ce n'est pas son avarice. Puisque, en fait, Pierre leur dit qu'ils n'avaient pas besoin de vendre le terrain pour faire partie de la communauté. Donc ce n'est pas son avarice qui est au cœur de ce péché. C'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui a provoqué sa mort? L'explication se trouve un peu plus loin au chapitre 6, avec les veuves grecques qui avaient été méprisées au profit les veuves juives issues de la diaspora qui étaient d'origine grecque, qui parlaient le grec en gros, hein, qui ne parlaient pas nécessairement l'araméen. Elles avaient été méprisées, ces veuves-là, dans la communauté, au profit des veuves juives de Palestine qui parlaient araméen et qui étaient sur le terrain, qui étaient des locales. En réalité, ça se passe là. C'est là où on peut comprendre ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. En réalité, il est bien plus probable que Ananias et Saphira ne voulaient pas vendre toute la totalité de leur terrain et les donner aux apôtres pour éviter que les veuves juives d'origine de la diaspora puissent bénéficier au même titre que les autres veuves de Palestine de leurs biens. Et comment on peut savoir ça? En fait, c'est en raison des noms qui sont donnés. Quand Luc, souvent, il donne les prénoms aux personnages de son histoire, il donne des noms grecs pour ceux qui sont issus de la diaspora et il donne des noms juifs pour ceux qui sont des locaux. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, il est Saül, hein, et à un moment donné, il devient Paul. Et c'est précisé. À chaque fois, donc, Luc utilise ça. Et pour le coup, on comprend en fait que derrière cela, il y avait dans la querelle de la communauté quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'il y avait une querelle entre ces deux communautés. Et pour le coup, Ananias et Saphira étaient partie prenante de cette querelle et ils ne souhaitaient pas, en gros, faire profiter de leurs biens les croyants qui venaient de la diaspora. Alors, je ne vais pas vous expliquer pour quelles raisons il y avait ces querelles, ça serait trop long ce matin, mais néanmoins, il y avait ces querelles. Et en faisant cela, il méprise l'Esprit-Saint qui est à l'origine de cette communauté. Il le méprise si fortement que Dieu considère que c'est suffisamment grave pour les retrancher de la communauté, sur le champ. Il est vrai que le chapitre 6, on voit les diacres qui sont instaurés pour calmer tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas tout le détail que ce conflit n'existait pas. Il nous est relaté et il nous est dit, voilà comment on vivait dans la communauté. Il y avait des choses merveilleuses, effectivement, mais il y avait aussi une partie sombre que Luc nous révèle comme ça par des petits indices et qu'en tirant les indices, on peut comprendre que derrière cela, il y avait véritablement un conflit et que Ananias et Saphira, en réalité, étaient partie prenante de ce conflit et ils l'ont manifesté en retenant une partie de cet argent. Et il est même probable que cette partie qu'ils ont retenue était conservée pour les veuves issues pour les veuves locales, quoi. Une partie pour le pot commun et une partie parce que je fais un favoritisme sur les veuves locales. En gros, c'est peu ça. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème parce que l'Esprit-Saint n'accepte pas ce genre de favoritisme. Et pour le coup, on voit qu'il y a une sanction. Que faut-il donc conclure de cette histoire? Quel message le Seigneur nous adresse à travers ce péché impardonnable? De ce qui s'est passé dans l'Église primitive à l'occasion de cette peine capitale. Parce que c'est quand même, c'est radical. Mais je dirais tout d'abord que le Seigneur aime son Église. Et que ce péché impardonnable en est la preuve la plus évidente. En effet, quel poids aurait son amour si tout un chacun pouvait mépriser son Église sans qu'il ne lève le petit doigt? Je sais, c'est difficile à penser, mais la patience du Seigneur s'arrête où les portes de l'enfer s'ouvrent pour l'engloutir. Stop ! Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église. J'aime mon Église et j'arrête la corruption quand elle vient se greffer sur la communauté. Et en particulier, où on est vraiment très très proche du moment fondateur, puisque Ananias et Saphira, c'est peut-être quelques mois après la formation de la communauté primitive. Blah ! Toute personne qui voudront corrompre son Église, l'Église du Christ, verront dans leur propre chair la corruption. C'est le péché de Balaam. Que les hommes et les femmes qui ne sont pas sincères se tiennent à l'écart. Les voilà avertis. Eh oui. On ne pèche pas impunément contre l'Église du Christ, qui est le fruit de l'Esprit Saint, sans qu'on ne soit soi-même retranché. Et puis, en dehors de cette affaire de péché impardonnable, il y a quelque chose à comprendre, à discerner. Parce que là, c'est la partie un peu raide, hein, quand même, j'avoue, de l'affaire. Mais elle existe, il faut la dire, puisqu'elle est là. Mais il y a quelque chose à comprendre ce matin, à retenir, et qui me semble être beaucoup plus propice pour connaître davantage notre Dieu, parce que notre Dieu est doux et bon, et il veut nous bénir. Au-delà de cette histoire, il y a quelque chose de plus fondamental, l'œuvre de l'Esprit Saint. Est-ce que je vois l'œuvre de l'Esprit Saint? Ou est-ce que je vois que des êtres humains? Est-ce que je vois Christ ressuscité quand je vois mon frère ou ma sœur? Ou est-ce que je vois Pierre, Paul ou Jacques? Ce n'est pas la même chose. Si je vois le Christ ressuscité, si je vois le visage de Dieu dans mon frère ou dans ma sœur, je ne vois plus ce qu'il est dans la chair. Je le vois comme il sera dans le ciel. Ce n'est pas la même chose. Je le vois dans ses fins dernières, dans ses finalités. Je ne le vois pas dans son parcours chaotique ici présent, ou dans ses difficultés, ou dans ses tares, ou dans ce qui ne me plaît pas chez lui. Je le vois dans sa gloire. C'est le premier point. Est-ce que je discerne le corps de Christ qui en est l'émanation la plus directe, l'émanation de l'Esprit-Saint la plus directe? Ce n'est pas les miracles qui sont l'émanation de l'Esprit-Saint. C'est la communauté. C'est le corps de Christ qui est actionné par sa tête, par Dieu, par Jésus lui-même, par le Seigneur lui-même. Est-ce que je vois le Christ derrière chacun de ses membres, ce que je disais, ou est-ce que je fais des différences entre ceux que je connais bien et que je connais moins bien, comme l'ont fait Ananias et Saphira? Parce que là, en gros, il y a un favoritisme qui est fait entre ceux qui étaient des locaux et ceux qui étaient de la diaspora. Et là, si je fais ça, c'est que je n'ai pas discerné là où je suis. Je ne sais pas où je suis. Je suis dans une communauté, mais je n'ai pas compris où j'étais en fait. Je suis dans l'Église, le corps de Christ, dont tous les membres sont liés par le même esprit. Ils sont liés, ils s'articulent ensemble. Et ils forment à eux tous le corps de Christ. Quand on fait la Sainte Cène, d'ailleurs, quand le pasteur lève le pain, le corps de Christ, et qui, à partir de ce pain, du même pain, il donne un morceau à tous. On fait partie tous du même pain. Et on ne prend pas un deuxième pain. On prend le même pain et on distribue à chacun. Et ça, c'est fondamental. Si je ne le discerne pas, la Bible nous dit « ne mange pas de ce pain ». Car tu prends une condamnation contre toi-même. C'est très fort. C'est pas juste. Oui, voilà, c'est fort. Je ne vais pas rajouter, ça ne sert à rien de rajouter quelque chose. On a compris. Est-ce que je prends soin de tous comme s'ils étaient miens? Est-ce que je délaisse ou est-ce que je délaisse ceux qui m'apportent rien ou que je ne considère pas proches de moi? Et je ne le fais pas parce que j'ai compassion ou parce qu'il faut faire des bonnes œuvres, hein, ou par devoir. Je les fais parce qu'ils sont miens. Parce que si je vois ma fille qui a 15 ans faire une connerie ou une bêtise, ou excuse-moi du terme, ou qu'elle a un besoin quelconque, ou eh ben, je vais m'empresser d'aller, parce qu'elle est mienne. On parle de la même chose. On parle d'un élan puissant qui est en lien avec la, non pas une fraternité des lumières universelles comme on a sur les frontons des mairies. On ne parle pas d'une fraternité comme ça. On parle d'une fratrie spirituelle. On parle d'une même famille. Alors je sais, ces questions viennent nous chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que c'est un idéal comme ça, assez haut. Mais l'Esprit Saint coule en nous. À chacun de nous, il coule en nous et il coule dans mon frère et dans ma sœur aussi, de la même manière qu'il coule en moi. Et c'est quelque chose qui est immensément profond. Et bien sûr, il peut y avoir des obstacles à tout ça. Il y a aussi les histoires en lien avec notre communauté, les dossiers, les choses comme ça qui font l'histoire des hommes. Mais au-delà de toutes ces choses-là, au-delà des histoires des communautés, et surtout quand elles sont âgées, quand ça fait longtemps qu'elles sont là, etc. Donc il y a plus d'histoires que quand ça fait 3 semaines qu'elle est ouverte. Hein, c'est logique. Et donc, des fois, c'est pas évident parce qu'en plus de ça, il vient se ajouter quelque chose d'en plus un petit peu compliqué, c'est l'identité ecclésiale. Elle vient d'une certaine manière se substituer à l'identité en Christ. Voilà, je suis de telle église ou je suis de telle église, et on sait quel ravage que ça peut faire quand on connaît l'histoire de France aussi à ce niveau-là. Donc, pour le coup, il y a ces choses. Mais si on se laisse interpeller par ce texte d'Ananias et Saphira, si on se laisse interpeller par ce qu'il nous dit sur ce que nous sommes en tant que corps de Christ, ce que mon frère ou ma sœur est à côté de moi, si on se laisse interpeller par cela, eh bien, en fait, ça va nous donner une vision beaucoup plus large et beaucoup plus bénie de notre communauté. Elles vont nous pousser sans doute à nous examiner nous-mêmes, à nous éprouver nous-mêmes, à savoir si on marche toujours dans la foi au Fils de Dieu, si on se sent toujours aimé par lui, si cette vie qu'il nous donne par son Esprit Saint coule encore en moi. Alors, ce n'est pas qu'elle ne coule plus, souvent c'est qu'on ne la laisse plus couler, ou alors il y a des pierres qui font obstacle à la vie de l'Esprit Saint au fond de nous, que ce soit des péchés ou tout simplement de l'incrédulité liée à nos événements, à nos frustrations, à des choses qui n'ont pas abouti, ou à nos déceptions, parce qu'on peut avoir aussi des déceptions. Mais une fois qu'on aura demandé au Seigneur d'ôter tout cela, qu'on aura demandé au Seigneur de nous remplir de son Esprit Saint, de nous montrer comme lui voit mon frère ou ma sœur dans l'Église, l'Église sera merveilleuse. Elle sera juste magnifique, parce qu'elle l'est en réalité. Elle est magnifique, cette Église. Et je sais qu'on, des fois, certains en disent, mais oh ben non, elle n'est pas si belle que ça, parce que c'est des hommes, et parce qu'il y a toutes sortes de choses qui n'y vont pas, qui vont pas bien dans nos Églises. Mais en réalité, elle est magnifique. Elle est très très belle. Elle est magnifique, et Paul souhaitait, et on l'entend souvent parler de cette Église vraiment avec un amour profond, souhaitait, donc dans certains textes, on l'entend vouloir souffrir les souffrances de Christ pour son Église. Vouloir finalement souffrir ce qui reste encore à souffrir avant qu'elle soit dans sa gloire merveilleuse. Parce qu'il y a un chemin encore, il y a un chemin pour aller vers cette étape-là. Et on voit Paul souffrir pour ça, et se réjouir de souffrir, et d'avoir l'honneur de le faire. Et vous savez pourquoi il a eu l'honneur de le faire, l'apôtre Paul ? Parce qu'il a persécuté l'Église, parce qu'il a chassé, parce qu'il en a enfermé certains en prison, il l'a malmené. Et quand le Christ ressuscité est venu le rencontrer sur le chemin de Damas, et lui a dit non pas « Pourquoi tu persécutes ces chrétiens ?» ou cette voix. Non, « Pourquoi me persécutes-tu, moi, le Christ ressuscité ? C'est moi que tu persécutes, c'est moi que tu touches. » en touchant à un de ses petits. Et cela, ça a marqué son existence toute sa vie. Parce qu'à cela, il y avait attaché des malédictions. Celui qui s'attache, qui attaque le corps de Christ, ou l'Église, et le peuple de Dieu, si vous voulez, il y a des malédictions qui sont attachées à sa vie. Et quand il a compris que Dieu lui faisait grâce, d'une certaine manière, de ne pas être maudit en raison de cela, et qu'il a réalisé que Dieu lui faisait grâce, d'une certaine manière, de pouvoir compter parmi le peuple de Dieu, eh bien, il a accepté toutes les souffrances pour elle, pour l'Église, pour le corps de Christ. Il a accepté tout. Et d'ailleurs, c'est ce que dira Dieu à Ananias, un autre, qu'il a baptisé, il lui a dit, je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour moi et pour mon Église. Et donc, pour le coup, voilà, il y a, pour mon nom, en fait, pour reprendre le texte plus précisément. Et donc, pour le coup, on voit très clairement qu'il y a quelque chose de fort à cet endroit-là, au milieu de l'Église. Et je voudrais vraiment que nous puissions nous examiner maintenant, nous-mêmes, que nous puissions méditer ces paroles, méditer ce texte, voir là où se trouve le mépris qu'on pourrait avoir dans notre cœur vis-à-vis de l'Esprit-Saint, dans son œuvre, dans son acte, dans ses actions, et que nous puissions nous en repentir, et que nous puissions renouveler notre vision du corps de Christ à travers ce verset que je vais vous donner maintenant, qui est en 2 Corinthiens 5. « Car l'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous. Donc, tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » C'est une image du baptême qui était exprimée dans ce texte. « Ainsi, dès maintenant que nous connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Ou une nouvelle création, selon les traductions. « Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Prions. Père, oui, je me mets devant toi, je me place devant toi, je place cette communauté aussi devant toi, la communauté et toutes nos églises aussi, et toutes les églises qui sont autour de nous, qui sont dans la région, qui sont aussi avec qui on a, Seigneur, des relations, avec qui on noue des liens aussi d'amitié et d'amour, mais au-delà de ces choses voilà, très humaines, très fraternelles certes, mais très humaines, il y a toi. Toutes ces églises, Seigneur, ce sont toi qui es à l'œuvre. Toutes ces églises, ce sont des émanations de toi, Seigneur. Ce sont des témoignages de qui tu es, Seigneur, sur la terre, toi qui es ressuscité, toi que la mort n'a pas enseveli, toi qui es les prémices, Seigneur, de notre héritage. Oui, Seigneur, donne-nous de discerner le corps. Donne-nous de discerner ton Église dans sa gloire. Donne-nous, Seigneur, de réaliser que mon frère ou ma sœur, c'est plus qu'un fidèle qui vient à l'Église ou un ami ou un parent même, c'est plus que cela. C'est toi. Et Seigneur, comment pouvons-nous dire, et je me mets ça aussi devant moi, Seigneur, comment pouvons-nous dire que nous t'aimons alors que nous ne te voyons pas et que nous détestons, à défaut, on est dans l'indifférence pour un frère que nous voyons et qui est aussi une émanation de toi. C'est quelque chose, Seigneur, que nous devons comprendre pour vivre l'Église davantage, qu'on puisse vivre l'Église comme toi, tu veux que nous la vivions. Et parfois, Seigneur, il y a des choses qui nous empêchent. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses ôter les obstacles qui nous empêchent de voir ton Église comme toi, tu la vois. Que tu puisses nous inspirer, que tu puisses nous bénir, Seigneur, et que tu puisses nous révéler ta gloire à travers l'Église. Et je te prie pour toutes les personnes qui ont sentiment d'avoir méprisé, et y compris moi, Seigneur, chacun en a sans doute péché en ce sens-là, je te prie de nous pardonner, Seigneur, et de nous donner, Seigneur, dorénavant le désir de ne plus te mépriser, de ne plus mépriser ce que nous voyons et qui nous semble être pas à la hauteur ou pas beau ou pas digne, Seigneur. Je te prie de nous pardonner, Seigneur, pour cela. Et pour toutes les personnes qui entreront demain et qui ne connaissent pas l'Église et qui, Seigneur, pourraient avoir envie de la corrompre, je te prie, et je n'ai pas besoin de prier quelque part parce que c'est une affirmation, c'est une promesse qui est sûre et certaine, je te prie, Seigneur, de les confondre, Seigneur, et de les mettre dehors, à moins qu'ils ne se repentent, Seigneur. Et c'est notre souhait pour eux, Seigneur, qu'ils soient réconciliés et qu'ils voient, Seigneur, à travers ton œuvre et ton action, un salut pour eux-mêmes, Seigneur. Mais on te prie, Seigneur, que personne ne méprise ta grâce, comme nous te prions que personne, Seigneur, ne se prive d'elle, parce que c'est quelque chose de merveilleux, Seigneur. Et notre ministère à nous chacun, c'est d'être des réconciliateurs, Seigneur, et d'amener vers toi à travers ton action, Seigneur, des personnes, des âmes qui ont soif d'être sauvées, Seigneur, qui ont soif de trouver la vie, la vérité, Seigneur, de te trouver toi, Seigneur. Amen.